Suivez Priorité Santé avec Suno Assurance, qui a le bon profil pour vous accompagner dans vos projets de vie avec ses produits d'épargne.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Les conséquences de l'épilepsie peuvent être très variables pour la vie quotidienne des patients en fonction de la nature des crises, selon les différents symptômes qui vont caractériser l'affection neurologique. L'impact de ces troubles des rythmes électriques du cerveau va également dépendre étroitement de la réponse au traitement, de son efficacité et dans certaines régions du monde, de la disponibilité des médicaments. Autre facteur important dans certains contextes, la possibilité matérielle, financière, de faire face aux conséquences de la maladie, examen, traitement au long cours. Le vécu, le ressenti de la personne atteinte d'épilepsie va aussi être conditionné par l'entourage, famille, école, cercle d'amis ou travail, leur soutien ou à l'inverse, leur rejet, le regard des autres. Lorsque l'on parle de l'épilepsie, il faut bien sûr en expliquer l'origine quand c'est possible, présenter les différentes réponses qu'offre aujourd'hui la médecine. Mais vivre avec l'épilepsie, c'est aussi souvent devoir faire face aux fausses croyances qui continuent d'exister autour de cette maladie. Expliquer, démentir, permettre de faire reculer les stigmatisations, autant de sujets que l'on va aborder aujourd'hui avec nos invités et avec les auditeurs de l'émission. Et la journée internationale de l'épilepsie, c'est le 14 février. Paroles de soignants, témoignages, questions d'aidants. En ligne de Marseille, on vous retrouve. Professeur Fabrice Bartholomé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du service d'épileptologie et rythmologie de l'hôpital de la Timone à Marseille. Donc, connaître, reconnaître l'épilepsie, journée internationale pour lutter contre la méconnaissance qui entoure encore la maladie. Avec nous en studio, Christophe Lucas, bonjour.
Bonjour, merci de nous inviter.
Merci. Le président d'Épilepsie France, à ce titre, vous faites partie de celles et de ceux qui réclament un grand plan national pour l'épilepsie. Vous nous expliquerez pourquoi tout à l'heure. En Guinée, on va retrouver tout à l'heure le professeur Faudé-Cissé, chef du service de neurologie du CHU Niasdine à Conakry. Et puis en fin d'émission, vous retrouverez le docteur Solano, sexologue, pour répondre à une de vos questions.
Priorité santé sur RFI.
Professeur Bartholomé, l'épilepsie, le nom de cette maladie est familier à un grand nombre d'entre nous. Pourtant, on dit souvent aussi que c'est une maladie méconnue, mal connue. Pourquoi ?
Alors, c'est une maladie en fait qui, paradoxalement, est probablement l'une des plus anciennes connues dans l'histoire de la médecine. On a des écrits sur l'épilepsie datant depuis 3000 ans avant Jésus-Christ. Donc, le paradoxe est là. C'est une maladie qui est décrite depuis très longtemps, mais qui, en même temps, a été associée à beaucoup de croyances, d'interprétations qui se sont un petit peu transmises avec le temps. Et en fait, on a réellement décrit l'origine de l'épilepsie dès lors que l'on a pu la relier à des anomalies des rythmes électriques du cerveau et que l'on a pu enregistrer ces activités électriques. Donc, ce n'est pas avant le début du XXe siècle que l'on a vraiment compris que ces maladies étaient liées à des activités électriques anormales dans le cerveau. Il fallait évidemment avoir les moyens d'enregistrer ces rythmes anormaux et petit à petit décrypter les différentes formes d'épilepsie, les relier à différentes anomalies de fonctionnement de zones du cerveau. Ça a pris beaucoup de temps et ça reste des maladies dans lesquelles finalement la clé est souvent l'interrogatoire du patient, la mise en évidence de ces rythmes anormaux, et finalement ça reste quelque chose qui est assez peu écrit, peu appris en médecine, parfois même en neurologie. Donc il y a eu quand même pendant, et on essaie de travailler quotidiennement pour que ce soit mieux connu, beaucoup de mystères, un certain halo qui a entouré ces maladies. C'est beaucoup de préjugés, beaucoup de confusion avec d'autres entités. Enfin, c'est tout un ensemble de facteurs qui font que cette maladie, ces maladies en fait, il faudrait.
Alors justement, par rapport à l'épilepsie, on a entendu votre expression, ces maladies. Est-ce qu'il ne serait pas plus correct, professeur Bartholomé, de parler d'épilepsie au pluriel, compte tenu de la diversité de l'impact sur le quotidien des patients, bien sûr, mais aussi, on va l'entendre, de l'entourage?
Absolument. moi, je dis souvent que l'épilepsie, c'est plutôt une discipline, c'est l'épileptologie, qui regroupe des entités très diverses, des âges de début extrêmement variés. Ce sont des maladies qui touchent potentiellement le nouveau-né jusqu'au vieillard. Et donc, on a des entités, des maladies qui sont vraiment évidemment complètement différentes selon l'âge de début, selon la cause, selon l'expression clinique. On parle souvent d'épilepsie soit focale, soit généralisée, mais même cette distinction, cette dichotomie est insuffisante pour décrire les différentes formes.
Alors, épilepsie au pluriel, crise aussi très différente, pluriel, et je disais conséquences pour l'entourage, le rôle des aidants. Alors, c'est votre cas, Christophe Lucas, et je préfère d'ailleurs vous laisser expliquer avec vos mots les raisons pour lesquelles aujourd'hui vous êtes impliqué pour mieux faire connaître cette maladie. C'est l'histoire de votre fils, c'est votre histoire, c'est l'histoire de votre famille.
Oui, mon fils a commencé à avoir des crises d'épilepsie visibles. Alors, je précise visibles, puisque comme le disait le professeur Bartholomé, les absences ne sont pas nécessairement visibles quand on n'a pas l'habitude de les voir. Donc, les premières crises tonico-cloniques, à l'âge de 10-11 ans à peu près, et puis, au fur et à mesure, les crises se sont accélérées au fur et à mesure de sa vie. Mais il avait un syndrome un peu particulier. Et puis, c'était un peu isolé vis-à-vis de ses camarades, parce qu'il avait peur de... Il avait une honte un petit peu de sa maladie. Il avait peur de faire des crises devant ses camarades, en classe, etc. Donc, il s'est isolé lui-même. Et puis, le regard des autres aussi était compliqué. Et puis, au fur et à mesure de l'évolution de sa vie, donc j'ai décidé de m'impliquer auprès de l'association à un moment donné au niveau parisien, au départ. Et puis, on m'a sollicité pour intégrer le conseil d'administration de l'association. Et puis, on m'a donné mandat en décembre, il y a un an, pour présider l'association et pérenniser en fait, la dynamique qui avait été mise en place par mes prédécesseurs auparavant. Donc là, on est en plein combat. Voilà.
Alors, votre fils, lui, a combattu la maladie pendant près de 8 ans.
Oui, tout à fait.
Il est décédé l'an dernier, il avait 18 ans.
Oui.
Et vous continuez, vous êtes toujours là. Et on peut le dire, la forme qui... Sa maladie, c'était quelque chose de très sévère. On parle d'un syndrome d'épilepsie rare. Vous pouvez nous expliquer brièvement de quoi il s'agit?
Alors, il était atteint de la maladie de la Fora, qui est l'un des 50 syndromes d'épilepsie. Et c'est une épilepsie excessivement rare. C'est-à-dire, à l'heure actuelle, on en a 60 répertoriés dans le monde, un peu dans tous les pays, que ce soit en Afrique, au Brésil, en Amérique du Sud, aux États-Unis, ou en Australie, ou en Europe. En France, il n'existe que 5 ou 6 cas de mémoire. On les connaît tous, on se connaît tous, les parents.
C'est une toute petite communauté.
C'est devenu une petite communauté sous l'égide d'une association américaine qui s'appelle Chelsea Hope.
Alors, il y a une volonté de la part des auditeurs, c'est ce qu'on lit dans leurs questions sur Facebook, professeur Bartholomé, de comprendre d'où ça vient. Évidemment, il y a tout un tas d'explications, plus ou moins rationnelles. On a par exemple sur Facebook, Bowling du Tchad, il témoigne. Il explique que son neveu a 7 ans, il est déscolarisé parce qu'à l'école, la direction de cette école craint qu'il ne contamine les autres. On voit un professeur Bartholomé qu'il reste encore énormément de travail à faire parce que Bowling, du coup, pose cette question. Mais on sent aussi qu'il a la réponse. Est-ce que l'épilepsie est contagieuse? Et pourquoi donc l'exclusion de son neveu au niveau de l'éducation des enfants, alors que justement, ben, ce n'est pas contagieux? Pourquoi il y a encore cette croyance?
Alors, effectivement, on a beaucoup de préjugés dans cette maladie, et notamment ces préjugés de contamination et de contagiosité qui sont évidemment complètement faux. Moi, j'explique souvent l'épilepsie à travers l'exemple du cœur, parce que c'est peut-être plus simple pour les personnes pour comprendre. Dans le cœur, vous avez un rythme qui fait marcher le cœur, qui est un rythme électrique qu'on prend sur l'électrocardiogramme ou par le pouls, c'est très simple à apprendre. Et vous avez des patients qui ont des troubles du rythme cardiaque. Le cœur s'emballe, devient plus tachycarde, etc. Et on parle de troubles du rythme du cœur. Dans le cerveau, l'épilepsie, c'est un petit peu la même chose. Vous avez des rythmes électriques qui font marcher le cerveau. Et l'épilepsie, c'est vraiment l'apparition de crises qui témoignent des rythmes électriques qui se modifient dans le cerveau. Donc, on n'imaginerait pas quelqu'un qui a un trouble du rythme cardiaque penser que c'est contagieux, penser qu'on doit l'ostraciser, l'exclure. Et paradoxalement, c'est ce qui se passe avec l'épilepsie. Vous avez un trouble du rythme dans le cerveau et ça conduit à des comportements qui sont complètement différents. Donc je pense que si on arrivait à mettre plus de rationnel, à revenir sur cette, sur cette. C'est pour ça que j'ai appelé mon service rythmologie cérébrale, parce que c'est vraiment ça le phénomène premier. Il peut y avoir d'autres troubles associés, évidemment. Et puis, il y a effectivement le fait que les manifestations cliniques de certaines crises épileptiques peuvent être impressionnantes, peuvent donner des troubles du comportement, des crises convulsives, des absences. Il y a toute une gamme de manifestations qui peuvent un petit peu impressionner l'entourage.
Mais donc, le message à faire passer, en tout cas pour cet auditeur bowling, Priorité Santé, c'est aussi un podcast qui n'hésite pas à faire écouter aux gens de l'école ce qu'on vient d'expliquer, parce que cet enfant, s'il va bien, s'il est en santé, s'il n'est pas en danger, il doit retourner à l'école. Et d'ailleurs, dans son message, cet auditeur explique aussi que son neveu n'a pour l'instant reçu aucun traitement en dehors du tradit praticien. Il n'y a pas eu de résultat. Professeur Bartholomé, faut dire à Bowling que son neveu pourrait certainement éviter un certain nombre de conséquences de l'épilepsie, mieux vivre avec s'il était suivi par un médecin, parce qu'il y a quand même, dans la grande majorité des cas, des traitements qui peuvent soulager.
Absolument. Et il faut qu'il aille voir nos confrères neurologues qui vont lui donner un traitement. Et le traitement, en gros, ça va être efficace dans 70-80% des cas. Donc,
alors c'est sûr, il n'y en a pas énormément au Tchad, certainement à N'Djamena, mais il n'empêche, on va à l'hôpital, on va expliquer ce qui se passe, c'est important.
Il faut qu'il voit des médecins, bien sûr.
Alors, on va rester au Tchad. Là, c'est Jean-Baptiste que nous avons en ligne. Jean-Baptiste, vous êtes à Adré, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous appelez au sujet de votre frère, Jean-Baptiste, votre frère de 22 ans. À quel moment l'épilepsie a été diagnostiquée chez votre frère?
Bon, c'est depuis l'enfance. Et on a traité à l'hôpital, même sur le trajet, parce que même, on n'a même pas trouvé l'autre agresseur total. Et c'est pour cela que je voudrais savoir, est-ce qu'il y aura un centre qui doit soigner cette épilepsie pour mon petit frère?
Est-ce que vous avez essayé d'aller quand même, vous êtes à Adré, ça fait peut-être une certaine distance avec N'Djamena, mais est-ce que vous avez quand même essayé d'aller à l'hôpital pour que votre frère puisse consulter un médecin, un neurologue? Qui est-ce que vous avez vu?
Bon, mon petit frère, il était à N'Djamena avec la maman.
Ouais.
Et moi qui ai un service à Adré comme ça.
À Adré, bah oui, à Adré, ça m'étonnerait qu'il y ait un service de neurologie dédié. Pour l'instant, est-ce que votre frère a pris un traitement?
Bon, quand on l'amène à l'hôpital, c'est tout juste la gardénale qu'on lui donne pour le calmer seulement.
Le gardénale pour le calmer. Est-ce qu'il réagit bien à ce médicament? Est-ce qu'il va mieux après?
Non, c'est à 20% seulement.
Il fait toujours des crises?
Oui, jusqu'à maintenant, même il fait des crises. Tantôt, dans un mois, 3 ou 4 fois, comme ça, des crises.
Il fait des crises sans arrêt. Alors, je sais que Jean-Baptiste, vous avez une question. On n'entend pas très bien la ligne. Donc, je vais me faire votre porte-parole. La question de Jean-Baptiste, et énormément d'auditeurs nous la posent, professeur Bartholomé, est-ce qu'on peut complètement guérir l'épilepsie? Est-ce qu'il y a un remède? Est-ce qu'il y a des médicaments, non pas qui soignent au long cours, comme c'est le cas souvent, mais le médicament qui soigne et qui guérit? Est-ce que ça existe?
Alors, en fait, il y a des épilepsies, notamment chez l'enfant, qui ont une durée d'activité limitée, ce qui fait que l'épilepsie peut disparaître au bout de quelques années. Et donc, le traitement ne va pas durer toute la vie. Mais très souvent, c'est quand même le plus souvent des maladies chroniques pour lesquelles il faut un traitement prolongé, voire à vie. Et les traitements sont assez efficaces. Je vous ai dit que globalement, on arrive à contrôler avec 1, 2, parfois un petit peu plus, médicaments anti-épileptiques, on va dire 70-80% des patients avec épilepsie. Mais il faut donner des traitements anti-épileptiques. Et si un traitement échoue, il ne faut pas hésiter à changer le traitement, prendre un autre. Il y a des patients qui répondent à un traitement, pas à un autre, qui le tolèrent bien et certains tolèrent mal d'autres molécules, donc il faut vraiment adapter à chaque patient le type de médicament et au type d'épilepsie qu'il a. Mais oui, globalement, il y a des médicaments efficaces, il y en a, alors évidemment, sur le continent africain, je pense qu'il y a plus de problèmes d'accès aux dans certains pays aux nouveaux médicaments.
Absolument.
Mais globalement, on a 25 antiépileptiques disponibles aujourd'hui qu'il faut savoir choisir et prescrire.
Alors, on a bien compris la réponse. Guérir, pas forcément ou non, mais soigner, oui, et adapter en tout cas le traitement pour essayer de trouver la meilleure réponse thérapeutique. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Très bonne journée à vous. Bien comprendre aussi, parce qu'on a compris ces épilepsies au pluriel. Et pour cela, on peut avoir des conseils très simples pour essayer de voir ce qui se passe, apporter des informations importantes au médecin, parce qu'il n'a pas forcément beaucoup de temps. Ce n'est pas tout à fait facile de décrire avec des mots ce qu'est une crise. Et pour ça, vous conseillez quelque chose de simple et de tout à fait raisonnable, hein, Christophe Lucas. Et c'est vrai que beaucoup de nos auditeurs ont tous cela dans la main, même en écoutant la radio aujourd'hui. C'est un téléphone. Vous conseillez de filmer une crise,
oui.
Pas par voyeurisme, mais par utilité simple et pure, pour que le médecin puisse visualiser, bien sûr quand le patient est sécurisé, hein, il est éloigné de tout objet sur lequel il pourrait se blesser. Expliquez-nous pourquoi c'est important.
Alors, moi je le conseille régulièrement de filmer la crise, surtout quand c'est des enfants. Pourquoi ? Parce que la vidéo que vous allez montrer à votre neurologue, et c'est la seule personne à qui vous devez la montrer d'ailleurs,
bien évidemment.
Va permettre de lui peut-être mieux cibler le type d'épilepsie ou la zone du cerveau qui est touchée et peut-être préciser la situation. Pourquoi ?
Parce que la crise, elle peut être interprétée ?
Elle peut être interprétée et comme le disait le professeur Bartholomé il y a quelques minutes, il existe plusieurs molécules mais qui sont dédiées à certains types d'épilepsie. Et ça va lui permettre de recentrer plus rapidement avant de préciser l'épilepsie du patient avec cette vidéo. Moi, on vous parlait de mon fils tout à l'heure. Sa première crise avait été filmée. Et les professeurs espagnols et américains qui sont spécialisés en maladie de la foie, quand ils ont vu la première crise, ils m'ont dit « Ah, c'est dommage qu'on ne l'ait pas vu en premier. » On aurait tout de suite imaginé que c'était la foie, hein, parce qu'il y avait un aura physique avant la crise. Et donc, pour certains, pour quasiment toutes les maladies, c'est plus compliqué de transcrire de ce que l'on a vu de la crise, de ce qu'on a expliqué, etc., avec ces mots, parce que le neurologue, lui, va s'imaginer un certain nombre de choses, mais n'a pas assisté à la crise. Et il a l'habitude d'en voir, mais peut-être en visualisant, il va tout de suite synthétiser. Et il y aura une perte de... on va gagner du temps, en fait, dans le diagnostic, parce que ces vidéos sont souvent très démonstrative.
Un outil diagnostique. On va poursuivre cet échange. Hein. Ce sera juste après Fave avec Baby Redeem. On retrouve juste ensuite d'autres questions d'auditeurs en direct.
Wanna take a picture so this could last longer for me. Longer for me. Yeah. Take my secrets, got them like precious money. Precious money. I never want to hear you quiet, so I write songs for you. And I believe, yes, I believe, I'm falling for you like a thief, picking the knees. Cause when I see you, I feel to steal the keys to your heart again. Yeah, yes, I believe, yes, I believe. Falling for you like a thief, breaking the knees. Cause when I see you, I feel it. Just did the keys to your heart again. Your heart.
Priorité santé sur RFI, vivre avec l'épilepsie, comprendre la maladie, adapter les prises en charge, lutter contre les stigmatisations. On continue d'échanger avec nos deux invités, le professeur Fabrice Bartholomé, chef du service d'épileptologie et rythmologie à l'hôpital de la Timone à Marseille. Et avec nous en studio, Christophe Lucas, président d'Épilepsie France, association, on va le dire tout simplement, qui attend un peu plus de la part des pouvoirs publics, parce que bien sûr, on lutte contre les tabous, on essaie de favoriser l'intégration. Et puis, il faut aussi faire face quand il y a des handicaps associés à la vie qui continue. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut dire haut et fort que vous manquez de moyens, que la formation n'est pas toujours à la hauteur. Et tout ça, ça a un impact direct sur la qualité de vie des patients, sur leur entourage. C'est ça qui est au cœur de votre manifeste.
Tout à fait. C'est-à-dire que le manifeste, on l'a publié parce que depuis des années, les patients et leurs proches nous ont sollicité parce qu'en disant c'est bien, vous nous aidez localement, en région, à aider nos enfants ou nos sœurs, nos frères, nos parents. Mais aujourd'hui, il faut que les choses changent et évoluent. Et c'est notre combat aujourd'hui, cette année. Donc on a choisi six thématiques tout au long de l'année sur laquelle on travaille, qui vont donner lieu à un livre blanc. Donc il y a la mobilité, la scolarité, le parcours de soins, l'emploi, l'isolement et les activités de loisirs et de sport. C'est les six thématiques principales qu'on a révélées cette année, qu'on a voulu porter et qu'on portera en novembre prochain lors d'un sommet à Paris pour obtenir des améliorations du quotidien. Nous, on lutte depuis des années pour un plan national. Pourquoi un plan national ? Parce que ça permettrait d'intégrer toutes les conséquences des épilepsies dans tous les éléments, on va dire, médico-sociaux de la vie. Et dans les décisions gouvernementales, le handicap, il est pris un peu partout. Et l'épilepsie étant un handicap invisible, c'est très compliqué et difficile pour nous de pouvoir défendre certains points. On a un certain nombre de points précis sur lesquels on est déjà en discussion avec le CIH aujourd'hui, mais on avance.
Alors, 700 000 personnes, on le rappelle, 700 000 personnes concernées en France. Professeur Bartholomé, on a d'autres proches de patients en ligne qui attendent votre éclairage. C'est votre cas, hein. Mamadou, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors vous êtes en ligne d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Vous appelez au sujet de votre petit garçon, votre fils a 6 ans. À quand remonte sa première crise d'épilepsie ?
Sa première crise d'épilepsie a commencé dès l'âge de 3 ans.
Oui.
Voilà, et ça a commencé subitement comme ça.
Il était à la maison quand ça s'est passé ?
Oui, il était à la maison pendant son sommeil, aux environs de 23h, minuit.
Et comment vous en êtes rendu compte s'il était dans sa chambre ?
Non, il était avec sa mère. Ah. Il dormait avec sa mère en ce moment.
C'était une très bonne idée de faire dormir avec la maman à ce moment-là, alors.
Et elle a remarqué qu'il grelottait comme... il a piqué une crise, il grelottait. Il n'arrivait pas à parler, ses dents se serraient. Donc, comme on n'a jamais vu ça, elle a eu peur, elle ne sait pas c'était quoi.
Elle l'a tout de suite conduit chez le médecin le lendemain matin ?
Oui. La nuit même, on allait à la clinique la nuit même.
La nuit même. Et est-ce que le diagnostic est venu vite ou il y a eu une hésitation ?
Bon, c'est pas venu aussitôt. Il y a eu une hésitation parce que les gens qui étaient de service là-bas pensaient que c'était une crise qui allait passer. Et après, nous ont dirigé vers un neurologue au CHU de Cocody. Et c'est là-bas qu'on allait faire les examens et ils ont décidé que c'était l'épilepsie.
Et maintenant, il prend des médicaments ?
Oui, il est sous traitement.
Et il réagit comment à ce traitement ? Est-ce que ça permet d'espacer les crises de votre petit garçon ? Il s'appelle comment, votre fils ?
Ça s'appelle Mehdi.
Alors Mehdi, est-ce que ça espace ces crises ?
Oui, ça permet d'espacer ces crises. Présentement, ça peut faire une crise chaque 2 mois, 3 mois. Non, au début, c'était une fois par semaine.
Est-ce qu'il est scolarisé aujourd'hui, Mehdi ?
Oui, il est scolarisé. Il fait la classe de CP1.
CP1 en CP, donc il apprend à lire et à écrire. À ce moment de l'année, il doit commencer à se débrouiller. Comment ça se passe à l'école ? Est-ce que vous avez prévenu son instituteur ou son institutrice ?
Oui, parce que dans leur établissement, on nous demande de prévenir si l'enfant a un cas. Bon, on a prévenu. Et la réaction, c'est que c'est sa locution. Il parle un peu difficilement.
Ah, d'accord. Voilà. Et vous avez une question, justement, par rapport à ce développement, à cette acquisition du langage chez votre fils ?
Oui. Ma question, c'était de savoir si, parce qu'il est sous traitement de Dépakine et de Gamalad B6. Les deux en même temps. Donc, je ne sais pas si ces deux médicaments ont un effet sur sa locution ou bien si c'est dû à l'épilepsie même. Parce que les enfants de son âge parlent aisément. Ils s'expriment plus facilement, mais lui, Je prends un exemple, s'il a une discussion, le temps lui va s'exprimer, bon, les autres auront déjà parlé, donc il va se sentir frustré, il va commencer à pleurer.
D'accord. Professeur Fabrice Bartholomé, cette question adressée à vous, difficulté d'élocution, donc difficulté aussi à participer à la vie de groupe, est-ce que ce serait plutôt lié aux effets du médicament ou est-ce que c'est lié à la maladie en elle-même?
Alors, c'est compliqué d'avoir un avis un peu à distance,
mais a priori,
c'est une épilepsie qui commence chez l'enfant et qui peut effectivement être associée à des petits troubles du développement. A priori, je ne pense pas qu'il y ait de lien avec ces médicaments. Au contraire, les médicaments sont des facteurs protectifs hein, qui vont aider le développement en empêchant qu'il y ait trop de crises. Ce qui est très néfaste sur le développement, c'est la répétition des crises. Mmh. Et même en dehors des crises, si vous faites un électroencéphalogramme, on voit des anomalies. Hein. Il n'y a pas que la crise d'épilepsie, il y a aussi des anomalies électriques du cerveau en dehors des crises qui peuvent un petit peu gêner le développement du cerveau. Donc ce qu'on peut dire pour ce petit enfant qui a des crises, c'est que il va sûrement se développer et il faut quand même garder un traitement pour aider ce développement. Ce qui est habituellement fait dans ces cas-là, c'est une rééducation orthophonique associée et des aides de ce type-là, et puis essayer de contrôler au maximum l'épilepsie. Alors, je ne sais pas s'il a eu une imagerie du cerveau, parce qu'évidemment, ça dépend aussi beaucoup du type d'épilepsie, de ce qu'on a sur les EEG, de ce qu'on a sur l'IRM cérébral ou le scanner cérébral, si ça a été fait. S'il n'y a pas de lésion, si c'est une épilepsie entre guillemets bénigne de l'enfance, il devrait arrêter de faire des crises et retrouver un fonctionnement de langage proche de la normale. Après, s'il y a des lésions dans le cerveau, c'est un petit peu différent. Donc, ça dépend beaucoup des cas.
Mamadou, est-ce que vous avez pensé à poser ces questions directement au médecin qui prend en charge votre fils? Parce que là, c'est vrai que par rapport à son développement, sa scolarité, etc., et puis même sa vie sociale, hein, si justement il est un petit peu en retrait parce que c'est long à partir ses réactions, on comprend aussi qu'il soit frustré. Est-ce que vous avez posé toutes ces questions au médecin?
Non, je ne l'ai pas posé directement.
Et vous avez bientôt un rendez-vous, justement, à l'occasion duquel vous pourriez faire une petite liste de questions pour qu'il puisse vous rassurer, vous orienter?
Oui. Dans le mois de mars, nous devons aller le rencontrer.
Ben voilà, je pense que ce serait une excellente occasion pour lui soumettre toutes ces questions. On a un autre témoignage. C'est au Sénégal, à Thiès, que l'on vous retrouve. Léon, bonjour.
Bonjour, Stéphane.
Alors, vous avez 30 ans, Léon. Vous avez été diagnostiqué en 2015. Est-ce que vous prenez un traitement aujourd'hui?
Oui.
Et vous prenez quoi?
Le Gardénal. Hein.
Du Gardénal. Est-ce que vous avez l'impression que ce médicament, il permet d'espacer les crises chez vous?
Oui.
Vous en êtes où aujourd'hui par rapport à cette fréquence des problèmes, des crises?
Bon, jusqu'à présent, il n'y a pas beaucoup d'amélioration.
Ça veut dire, c'est à quelle fréquence? Est-ce que c'est tous les jours, toutes les semaines, tous les mois? C'est comment?
C'est pas tous les jours.
D'accord.
Mais parfois je tombe deux ou trois fois par mois.
Deux ou trois fois par mois. Et après, vous mettez combien de temps à reprendre des forces, à redevenir le vrai Léon? Vous mettez combien de temps?
À peu près... Et 1h ou 1h30.
Oui. Après, vous en sortez épuisé, vous êtes très fatigué?
Oui.
Très fatigué. Et vous disiez, je tombe. Et ça, c'est extrêmement important parce que vous avez un travail dans lequel, on va dire, vous ne pouvez pas tomber puisque vous travaillez dans le bâtiment. Alors, comment est-ce que, justement, la maladie peut nuire à ce travail, à votre organisation et tout simplement à votre gagne-pain, hein, parce que c'est compliqué de gagner sa vie quand on ne peut pas travailler?
Oui.
Comment vous faites? Vous avez changé de travail? Vous travaillez moins?
Non, je travaille moins.
Ouais. Pourquoi? Parce que vous êtes fatigué ou parce que vous avez peur?
J'ai peur, parce que c'est trop risqué, quoi.
Mmh. Et on comprend aussi que quand on monte sur un échafaudage ou sur une échelle, évidemment, pas question de faire une crise quand on est, par exemple, en hauteur. Alors vous, Léon, vous aviez une question au professeur Bartholomé, au-delà des médicaments, pour savoir s'il y avait une autre solution.
Oui.
Vous pouvez poser votre question.
si je ne me trompe pas, j'ai un jour entendu dans votre émission qu'on pouvait faire l'opération chirurgicale pour guérir définitivement l'épilepsie. Alors, c'est ça mon question.
Et en fait, c'est un espoir pour vous? Vous souhaiteriez être opéré, c'est ça?
Oui.
Mais j'imagine que vous aviez aussi entendu dans cette émission que finalement, la chirurgie, ce n'était pas pour toutes les épilepsies. Hein. On avait bien indiqué ça. Professeur Bartholomé, l'option chirurgicale, elle est retenue dans quel cas précisément?
Alors, c'est une très bonne question, évidemment. D'abord, il faut que l'épilepsie soit focale, c'est-à-dire qu'on ait une épilepsie dont les crises partent d'une région suffisamment localisée dans le cerveau pour qu'elle puisse être enlevée chirurgicalement et conduire à la guérison de l'épilepsie. Donc c'est déjà un premier critère. Là. Donc il faut voir...
Il faut qu'il y ait une imagerie très précise déjà.
Alors il faut faire de l'imagerie, il faut faire enregistrer les crises, vérifier qu'elles sont suffisamment focales sur l'électroencéphalogramme, sur les symptômes. Il y a une batterie d'examens que l'on fait en imagerie aussi pour regarder s'il y a une lésion focale dans le cerveau. Et puis l'autre grand critère, c'est la résistance au traitement. Alors, si on résiste à un seul traitement antiépileptique, c'est-à-dire si les crises persistent malgré un traitement, on en essaie un deuxième, et on estime qu'après l'essai de deux ou trois antiépileptiques, il faut toujours penser à la possibilité d'une chirurgie d'épilepsie. Alors effectivement, cette chirurgie, si on regarde qui peut être opéré, aujourd'hui, c'est à peu près 20-30% des malades qui ont une épilepsie qui résistent au traitement. Donc ça reste quand même... Il y a beaucoup de candidats, mais finalement, à la fin, il y a peu d'élus pour une chirurgie. Il faut la faire dans des services très spécialisés, comme par exemple le service à la Timone, à Marseille. Mais... Oui, c'est
pointu. Moi, j'ai une question à Léon, parce que tout à l'heure, il a cité son médicament. Léon, est-ce que vous avez déjà essayé autre chose que le Gardénal que vous aviez cité? Est-ce que vous avez déjà essayé un autre médicament? Et puis, la deuxième question qui est importante, c'est est-ce que vous allez régulièrement en consultation pour parler de vos réactions, expliquer comment ça se passe dans votre corps, dans votre tête?
Oui, bon, depuis comment diagnostiquer l'épilepsie?
Oui.
Je prends seulement le Gardénal 100.
On ne vous a jamais essayé un autre médicament?
Non, j'ai des rendez-vous de 6 mois.
Rendez-vous tous les 6 mois. Et comme ça marche plutôt bien, on garde ce médicament?
Oui.
Et pour le payer, c'est compliqué ou est-ce que vous y arrivez bien?
C'est un peu compliqué parce que je n'arrive plus à travailler régulièrement.
Donc en fait, le problème, c'est qu'il faut travailler pour payer les médicaments. Mais en même temps, payer les médicaments, quand on est malade, c'est compliqué de travailler. On comprend bien que c'est extrêmement complexe. En tout cas, si vous avez déjà un suivi tous les 6 mois, ben, on vous encourage à poursuivre sur cette voie. On vous souhaite une très très bonne journée, Léon, au Sénégal. Et on part maintenant pour le pays voisin, on part pour la Guinée.
RFI à Conakry, 89.9 FM.
Bonjour, professeur Faudé-Cissé.
Bonjour, Priorité Santé.
Alors, vous êtes chef de service de neurologie au CHU Ignace Dine de Conakry. Connaître l'épilepsie, hein, on vient d'échanger avec nos invités, avec les auditeurs, et aussi lutter contre les fausses croyances. J'aimerais, professeur Cissé, qu'on commence par là. Est-ce que vous observez dans votre exercice des améliorations à la faveur des campagnes de sensibilisation, on va dire, une meilleure compréhension de cette maladie, on a compris, hein, qui est quand même assez compliquée?
Oui, naturellement. Je pense que c'est une nécessité parce que l'épilepsie revêt une croyance particulière dans notre environnement. C'est vraiment une croyance hippocratique qui remonte à 2000 ans, c'est-à-dire que la plupart des gens qui vivent dans les régions rurales pensent que l'épilepsie, en fait, est une affaire de diable. Donc aujourd'hui, il est très important de sensibiliser. Mais au-delà de ça, il y a la question de la stigmatisation. Par exemple, dans notre culture et dans notre pays, la plupart des épileptiques, compte tenu du fait qu'il y a parfois de l'hypersalivation, il y a de fausses croyances qui disent que c'est contagieux. Donc il faut lutter contre ces croyances-là pour éviter la stigmatisation, pour éviter que les gens ne perdent leur emploi comme celui qui parlait précédemment au Sénégal tout à l'heure, pour faciliter des choses comme le mariage. Par exemple, en Guinée, dans les études effectuées, 67% des gens ne se marient pas à cause des crises d'épilepsie. Donc c'est nécessaire de faire des campagnes de sensibilisation en français, mais aussi dans les langues vernaculaires, pour expliquer que l'épilepsie est une maladie traitable avec les médicaments disponibles dans notre contexte à hauteur de 70%, c'est-à-dire que la pharmacosensibilité des médicaments disponibles dans nos pays africains, selon l'OMS, marche dans 70% des cas, bien qu'il y ait des effets secondaires, et il n'y a que 30% de résistance. Donc ça vaut quand même le coup d'essayer, parce que ça permet aux gens d'avoir une qualité de vie, et ça permet aux gens de réaliser un peu leur rêve.
Et c'est exactement ce qui explique un auditeur du Togo, c'est de Kara, c'est Bassao, sur la page Facebook de l'émission. Il explique que sa sœur de 18 ans a eu ses premières crises à l'âge de 7 ans. Aujourd'hui, grâce au traitement, les crises se sont espacées une fois tous les 3 mois. Et encore, explique Bassao, c'est quand elle interrompt son traitement. Ça veut dire que c'est très important de suivre le traitement. Mais attention, on parlait des fausses croyances. Et là aussi, Bassao a entendu dire, alors je vous soumets cette fausse croyance, il y a des guillemets devant et derrière, je le dis à chaque fois, que le mariage et faire des enfants, ça permettait de guérir l'épilepsie. Professeur Cissé, c'est toujours très clair. Quand on a une fausse rumeur, on dit c'est non, c'est faux, c'est n'importe quoi. Voilà.
C'est n'importe quoi, parce que l'épilepsie, c'est tout simplement une hyper-excitabilité des neurones entraînant une répétition des crises d'épilepsie. Donc ça n'a rien à voir avec le fait de faire des enfants. L'épilepsie est une maladie chronique du cerveau. Que vous mariez ou pas, ça ne traite pas l'épilepsie. Le traitement de l'épilepsie, comme ça a été dit précédemment, c'est un traitement médicamenteux. Dans la plupart des cas, parfois, il y a d'autres traitements qui ne sont pas médicamenteux. C'est des traitements chirurgicaux, c'est des choses comme la stimulation du nerf vague ou encore des régimes dits cétogènes. Mais voilà, le traitement n'a rien à voir avec le mariage.
Et tout à l'heure, vous disiez une meilleure information de la population. Est-ce que vous avez aussi des indications, professeur Cissé, c'est très important, sur le moment auquel les patients sont pris en charge? Est-ce que vous avez le sentiment que c'est à un stade tardif ou dès les premières crises? Et bien sûr, dans votre contexte, le passage chez le tradipraticien.
Oui, mais c'est clair que les gens ne viennent pas au début. Les gens viennent surtout à un stade de complication qu'on appelle l'état de mal épileptique. Lorsque les crises se prolongent ou bien que vous avez des crises qui se répètent de manière répétée, fixe et durable, on parle d'un état de mal épileptique au-delà de 5 minutes pour les crises dites généralisées. Pour les crises focales dont parlait M. Bartholomé, au-delà de 15 minutes, au-delà de 10 minutes, on parle d'état de mal focal. Mais les patients viennent consulter en stade de complication. Et parfois, quand il y a des comorbidités, de la dépression, de l'anxiété, ou bien qu'il y ait des traumatismes avec des fractures, c'est à ce moment que les gens viennent. Le premier recours reste le marabout, parce que dans le subconscient collectif de nos populations, c'est une affaire de diable. Donc d'où l'intérêt de sensibiliser les gens, parce que 70% des populations sont rurales. Et parmi ces populations rurales, 40% n'ont pas accès aux soins de santé globalement. La plupart des neurologues en Guinée, il y en a une dizaine qui sont localisés dans la capitale, donc 2/3 du pays est sans neurologue et sans médecin formé à la prise en charge de l'épilepsie.
Et la capitale, 10 spécialistes, ça ne fait pas grand-chose, hein ?
Non, pas du tout. Le ratio, selon la Fédération mondiale de neurologie, de personnes par neurologue, c'est un neurologue pour 20 000 personnes. À Conakry, on a entre 3 et 4 millions, donc le calcul est vite fait. Donc on est déjà en sous-effectif à Conakry, mais à l'intérieur du pays, il n'y a pas de neurologue et il n'y a pas de médecin. Parce que l'épilepsie peut aussi être prise en charge par des médecins généralistes, selon les recommandations de l'OMS. Si c'est un centre de santé primaire ou secondaire, c'est possible de former, mais il faut former les médecins généralistes. Il faut utiliser les nouvelles technologies de l'information, notamment les applications avec mobile, pour former les gens au type de crise généralisée, focale, des choses comme les absences, pour que les gens puissent reconnaître l'épilepsie et le traiter, parce que les molécules sont accessibles quand même.
Parce qu'en plus, il faut le souligner, l'essentiel des personnes épileptiques vivent dans des pays en développement, d'où l'adaptation, 80%. Voilà, 80%, d'où l'adaptation des réponses aux situations, et vous insistez bien sûr sur ce point, former les personnels de santé jusqu'aux infirmières, jusqu'aux aides-soignantes, et ça veut dire aussi dans les discours, changer ces discours de stigmatisation. Quand quelqu'un vient, on ne lui donne pas des explications de n'importe quoi, parce qu'on n'a pas forcément la compréhension de la maladie.
Clairement. Il faut former. Ce que vous dites est très pertinent, ça rentre en droite ligne des recommandations de l'OMS qui datent déjà d'une quinzaine d'années. à haute épilepsie of the shadow, c'est-à-dire que où que vous soyez, la prise en charge de l'épilepsie doit être adaptée à l'environnement, mais en plus on doit faire attention à l'utilisation des examens complémentaires, parce que le diagnostic de l'épilepsie est essentiellement clinique et l'OMS insiste beaucoup sur l'interrogatoire du patient, l'interrogatoire de l'entourage et des éventuels témoins en cas de crise. Et comme disait M. Osler, écoutez, le patient, c'est lui qui vous donne le diagnostic. Cela nous permet, en écoutant et en examinant correctement les gens, de faire dans la grande majorité des cas le diagnostic. Et même des infirmières bien formées peuvent faire le diagnostic de l'épilepsie et recommander des choses comme le phénobarbital ou encore de la phénytoïne, la carbamazépine ou encore le valproate de sodium. Donc le diagnostic de l'épilepsie est clinique et doit être adapté vraiment au niveau de la pyramide sanitaire, parce que les réalités à Marseille et à Paris sont différentes des réalités à Dakar ou encore Conakry. Encore que, ça c'est dans les capitales, mais si vous allez à l'intérieur du pays, c'est d'autres réalités qui doivent être prises en compte, avec un écosystème qui est dominé par les maladies infectieuses et traumatiques, et aussi les complications liées aux grossesses, donc qui sont très importantes à connaître pour une prise en charge de l'épilepsie dans notre environnement.
Merci infiniment, professeur Cissé. Merci d'avoir été en ligne avec nous de Conakry. Notre échange touche à sa fin. Ça va très vite. Et on sait que les fausses croyances, elles sont partout. Professeur Fabrice Bartholomé, ce n'est pas parce qu'on exerce à Marseille qu'il n'y a pas de fausses croyances.
Ah non, absolument. Et je dirais que toutes les études sur les croyances, les stigmatisations montrent finalement que même dans les pays dits
développés,
il y a beaucoup de fausses croyances. Hein. Par exemple, 5% de la population en France, sur certaines études, pense que c'est encore une maladie diabolique, l'épilepsie. Donc, c'est pas quelque chose qui a complètement disparu, ce genre de croyance.
Alors, à travers tous les témoignages qu'on a entendus au cours de cette émission, Christophe, Lucas, je vais vous laisser le mot de la fin, toutes ces expériences, des parcours de vie très différents, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a des besoins, notamment le besoin d'en savoir plus sur la maladie. Et pour ça, tout à l'heure, vous lanciez cet appel au pouvoir public pour qu'on s'intéresse plus à vous et à l'impact à tous les niveaux. Mais ça veut dire aussi miser sur la recherche. Et ça aussi, c'est très important.
Oui, tout à fait. Ça fait partie des discussions qu'on a avec pas mal de familles et de professeurs que l'on connaît, hein, sur toute la région. Il existe aujourd'hui un certain nombre de recherches qui sont faites sur toutes les épilepsies qui sont, on va dire, plus génétiques. Où il y a des progrès importants. Mais globalement, comme dirait Mme Caribou, la problématique, elle va être de trouver des choses. On a des licornes françaises en ce moment qui sont en train de développer des outils pour pouvoir prévenir ou alerter
des petites entreprises de haute technologie.
Voilà. Oui, excusez-moi.
Vous êtes un peu dans le jargon, mais
tout
c'est
à fait.
Pas grave.
Et on a des produits, des outils qui devraient arriver dans les années à venir, qui vont permettre d'aider les professionnels pour essayer d'améliorer les alertes au niveau des crises et les statuts. Un petit peu dans le même esprit que expliquait le professeur Bartholomé tout à l'heure, l'arythmologie du cerveau. Et je pense qu'il y a plusieurs outils qui arrivent là-dessus. Nous, on en connaît quelques-uns, mais on sait que ça va être une grosse modernité demain.
Et c'est ça où on a compris que quand on a besoin de moyens, c'est vraiment à tous les niveaux de la riposte.
Tout à fait.
C'est le temps maintenant de vous remercier tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci professeur Bartholomé, d'avoir été en ligne de Marseille. Merci infiniment à vous, Christophe, Lucas. On mettra bien sûr le lien de votre association Épilepsie France sur la page Facebook de l'émission. Et on parle sexualité à présent dans Priorité Santé avec vous, docteur Catherine Solano. Bonjour.
Bonjour Caroline Paré.
Vous êtes sexologue. C'est un auditeur de Yaoundé, Jean, qui pose une question Facebook maintenant. Son ami, sa partenaire, ne parle pas beaucoup et ça le gêne car son manque de réaction lui pose beaucoup de questions. Par exemple, Jean se pose des questions sur son plaisir et même sur son consentement. Alors Jean vous demande, docteur Solano, comment amener son ami à s'ouvrir davantage à lui ?
Déjà, je voudrais remercier Jean de nous poser cette question parce que c'est vrai que la question du consentement, c'est très important. Alors, c'est vrai que quand une femme dit non, ça me fait mal ou non, je n'ai pas envie, c'est facile de comprendre qu'elle ne veut pas, elle dit non. Quand une femme dit oui, ça me plaît, c'est aussi facile de comprendre. Mais quand une femme, comme l'ami de Jean, ne parle pas, on peut se demander comme Jean si elle pense oui et si elle a du plaisir ou si elle pense non et qu'elle fait quelque chose parce qu'elle n'ose pas dire non. Et c'est quand même assez fréquent. Je peux vous dire qu'on apprend apprend souvent aux petites filles à être discrètes, gentilles, à ne pas parler de sexualité. Alors une fois en couple, ben elles sont pas du tout à l'aise pour en parler et elles n'osent pas dire ce qu'elles ressentent. Donc il faut les aider.
Alors contrairement à ce qu'on pense, hein, qui ne dit mot consent, c'est pas forcément vrai
du tout. Ah ben non, c'est pas forcément vrai du tout.
Alors justement, quel conseil on peut donner à Jean, à cet auditeur ?
D'abord, il faut savoir qu'il ne va pas réussir d'un coup de baguette magique à faire que son ami parle et s'ouvre à lui. Il ne suffit pas de lui dire « j'ai envie que tu me parles » pour que ça marche instantanément, parce qu'elle n'est pas habituée, il faut un certain entraînement. Donc, je me souviens d'un de nos auditeurs qui nous avait dit « ma femme était très bloquée au niveau de la sexualité en parole et en gestes, et en 3 ans, elle était transformée ». Donc, vous voyez, ce n'était pas en 2 jours, quoi.
Donc, prendre son temps, une fois qu'on a un petit peu de temps, qu'est-ce qu'on fait ?
Alors, la première chose, c'est que Jean devrait dire à son ami ce qui lui plaît à lui. Par exemple, j'aime beaucoup quand tu m'embrasses dans le cou, j'aime quand tu poses ta main ici, ça me fait beaucoup d'effet quand tu me griffes doucement le dos, je prends des exemples. Hein. Donc, pourquoi ? Parce qu'on apprend par l'imitation. Donc, le fait qu'il parle, eh bien, son ami va l'entendre et puis petit à petit, elle va commencer à se dire qu'elle pourrait parler. Bien sûr, ça ne suffit pas de parler une fois pour que l'autre vous imite, mais qu'elle l'entende régulièrement. Ensuite, il peut lui dire la même chose. Et, par exemple, j'aime quand tu m'embrasses dans le cou et lui demander « Et toi, est-ce que tu aimes quand je fais ça ? Ou est-ce que tu n'aimes pas ?» Donc, ça l'aidera à s'exprimer, à dire ce qu'elle aime, même si au début, elle lui dira peut-être seulement « oui » ou bien « non ». Mais c'est un petit début.
Il faut bien commencer quelque part.
Voilà, il faut bien commencer quelque part. Et vous remarquez que je parle d'embrasser dans le cou, parce qu'au début, c'est plus facile avec un geste qui n'est pas très sexuel. Il vaut mieux des questions pas trop intimes, parce qu'elles seraient encore plus bloquées, finalement. Hein.
Parce qu'on n'a parfois pas envie de dire certains mots. Ça dépend des personnes.
Exactement,
complètement.
Oui.
Et d'autres conseils pour Jean ?
Ce qui est bien aussi, c'est de pas seulement parler pendant l'amour, mais après. Que Jean puisse dire à son ami « j'ai bien aimé aujourd'hui quand on a fait l'amour, quand on a fait telle chose ». Et par exemple, ce que j'ai préféré aujourd'hui, c'est quand tu es venu sur moi. Et toi, qu'est-ce que tu as préféré ? Alors ça peut aider parce que c'est parfois plus facile de parler après l'amour que pendant, parce que c'est un moment où on a beaucoup d'émotions. Et puis, conseil aussi, il faut toujours dire d'abord ce qu'on a aimé, pas les critiques. Mais on peut aussi ajouter, j'aime moins telle position, j'aime bien quand tu me griffes doucement le dos, j'ai pris cet exemple, mais pas trop fort, sinon c'est pas agréable. Ou dans telle position, moi j'ai des fourmis ou des crampes dans les pieds, par exemple. Ça paraît bête, mais c'est d'encourager son ami, le but, hein, c'est ça, d'encourager son ami à lui à dire aussi ce qu'elle n'aime pas trop ou pas du tout. Hein.
Alors justement, on en revient à la question du consentement. Important aussi de dire ce qu'on n'aime pas.
Alors c'est très important, parce que moi je dis souvent à mes patients, si vous ne dites jamais ni oui ni non, on ne sait jamais si vous êtes d'accord ou pas. Donc il faut savoir dire non, parce que dans ces cas-là, votre partenaire est rassuré. Il sait que si vous ne dites rien, bah, c'est que vous êtes d'accord, puisque vous savez dire non. Et il n'est pas comme Jean en train de se demander tout le temps en faisant l'amour, est-ce qu'elle est contente, est-ce qu'elle n'est pas contente. Et ça, ce n'est pas agréable, parce qu'il y a beaucoup d'hommes, heureusement, qui sont attentionnés, qui ont envie de faire plaisir et pas du tout envie de faire ce que l'autre n'a pas envie. Donc, si vous savez dire non, ça veut dire que vous savez dire oui. Et donc, pour finir, je pense que Jean, il faut aussi qu'il dise à son ami, moi, j'ai envie que tu sois bien avec moi, j'ai envie de te connaître, j'ai envie de savoir ce qui te fait plaisir et ce qui ne te fait pas plaisir. C'est vraiment important qu'elle sache qu'elle peut dire ce qu'elle n'aime pas. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas dire ce qu'elles n'aiment pas parce qu'elles ont peur de blesser l'autre aussi en disant « j'aime pas quand tu mets ta main ici ». Ben oui, mais si elle explique tout ce qu'elle aime, et donc ça permet de mieux se connaître et d'être bien plus épanouie.
Merci beaucoup Dr Catherine Solano et à très bientôt dans Priorité Santé. Et merci à toute l'équipe, à Cetoussamac et Ophélie Lassène, Didier Bleu, Diego Tenorio. Demain, on va parler de la peur de vieillir, émission Questions de femmes, transformation physique, crainte liée à la mort, à l'isolement ou au changement, également au regard des autres. On se dit à demain. D'ici là, portez-vous bien, lavez-vous bien les mains.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance qui a le bon profil pour vous accompagner dans vos projets de vie avec ses produits d'épargne.